Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur la Radio Mondiale pour une longue soirée football. Une très grande soirée même, attendue ce soir au Parc des Princes, le grand soir pour les supporters et pour le Paris Saint-Germain qui pourrait décrocher une place en finale de la Ligue des Champions.
On va gagner, bien sûr.
L'entraîneur du PSG l'assure, mais la route est encore longue jusqu'à Wembley, car les adversaires en jaune et noir du Borussia Dortmund comptent bien maintenir leur avantage. Il reste donc 90 minutes à parcourir, peut-être 120, si des obstacles surgissent. Et un seul mantra, gagner par deux buts d'écart. On va gagner, Eric Rabessandratana ?
Ben, j'espère bien, bonjour. Bonjour. J'aimerais bien avoir la réponse là maintenant, mais bon, j'ai bon espoir quand même.
Vous avez bon espoir, bon, c'est déjà un signe.
C'est déjà pas mal pour moi.
Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour Annie.
Et vous qui avez vu l'aller là-bas?
Ah, moi je peux pas dire, je suis journaliste, c'est les faits.
C'est vrai que c'est la différence entre vous et Eric, notre ancien joueur du Paris Saint-Germain. À Madrid, le compte à rebours, 24 heures avant un match retour qui promet d'être tout aussi électrisant, car à Munich, le Bayern et le Real se sont quittés, eux, sur un score nul de partout. L'ADN de la Casablanca va-t-il primer sur la détermination allemande? Je ne parle pas de Deutsche Qualität. Bonjour, David Lortolari.
Bonjour, Annie. Mais il y a de la qualité.
Il y a de la qualité. On n'en doute pas et vous nous en parlerez. Un homme des livres qui ne reniait pas sa passion pour le ballon rond. Bernard Pivot aimait le sport, adorait le foot et était un fan inconditionnel de l'AS Saint-Étienne. Il était même à Glasgow en 1976 pour assister à la fameuse finale perdue par les Verts. Bernard Pivot, disparu hier à l'âge de 89 ans, nous lui rendrons hommage. Et puis il y a un autre perturbateur dans ce studio. Bonjour Bruno Constant.
Perturbateur, bonjour Annie.
Oui, parce que vous aimez bien.
Fitzel, il perturbe.
Je pensais plutôt à quelqu'un qui a mis un petit peu d'équilibre dans un débat avec un ancien joueur
oui.
du PSG.
Oui, mais vous avez des petites remarques perfides parfois qui relancent les débats.
Un journaliste de Dortmund.
On va voir ça, Bruno Constant. Les auditeurs vont dresser l'oreille, j'en suis certaine. Pierre Guérin m'a aidé à préparer cette émission avec, bien sûr, David Finzel, Mathieu De Gueldre à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. Les supporters, les ultras du Paris Saint-Germain, ils donnent de la voix, c'est pas toujours très chantant, mais en tout cas...
Je sais pas comment ils font pour crier comme ça, hein, franchement. Hein,
je pense qu'ils ont des mégaphones, hein, ça
ouais,
les aide aussi
bon,
parfois.
Ouais, non mais bon, faut quand même crier, et je me dis...
Et souvent, pendant tout le match, ouais. Là, c'était au match aller, mais évidemment, au match retour,
en général.
Ouais, bah, ça donne chaud d'hurler.
Ah ouais.
Mais là-bas, il faisait chaud, hein, vous nous confirmez,
oui,
Cédric.
27,
il y avait une vingtaine
chaud,
de degrés.
C'était,
ouais.
C'était l'été à Dortmund, dans la Ruhr. C'était
il y avait une vingtaine
de
degrés. Jusqu'à Munich, la veille, ils nous avaient dit aussi qu'il ouais. faisait 20 degrés. On avait vu et l'entraîneur
pour le coup,
parisien
les...
en t-shirt.
Ouais, pour le coup, les supporters avaient bien donné. Ils étaient 4000, mais on les a bien entendus dans ce signal.
Alors ce soir, il ne fera pas 20 degrés au Parc des Princes, mais l'ambiance promet quand même d'être très chaude. Des tribunes débordantes de passion, d'impatience aussi. Les supporters ultra ont lancé sur les réseaux sociaux un appel au peuple rouge et bleu. Donc, les supporters, bien sûr. Ce soir, c'est une place en finale de la Ligue des Champions qui se jouera entre le PSG et le Borussia Dortmund après le match aller dans la Ruhr et qui s'était donc fini sur une défaite parisienne 1-0. Pour ce qui est de l'ambiance, les Parisiens ont dû prendre une leçon quand même au match aller, Cédric.
Ben, je vous dis, c'était ouais. honnêtement, oui, il y avait une superbe ambiance aussi.
C'est le plus grand stade d'Allemagne.
Il y avait,
alors,
voilà,
y avait du monde, 80 000 places.
Le fameux mur jaune, il y avait beaucoup, ça a beaucoup poussé pour Dortmund, ça a sans doute fait une petite différence. Mais je vous dis, les supporters parisiens, qui d'ailleurs sont un petit peu salués partout en Europe depuis quelques temps pour eh bien, leur appui, leur soutien, ils étaient quelques milliers et on les a un petit peu entendus. Donc, Voilà, ils ont perdu le match, mais parce que évidemment en nombre il y avait pas photo, mais ils étaient quand même là. On les a un petit peu entendus, donc il y a une petite revanche à prendre là-dessus aujourd'hui.
Il y a moins de monde dans le Parc des Princes, ils sont 40 000, mais Eric, on l'a vu évoluer cette ambiance au Parc des Princes depuis que les Qatariens sont arrivés il y a une douzaine d'années. Au début, ils étaient alors on sortait des années effectivement du plan Le Prou, donc ils étaient un peu bordurés. Et puis peu à peu, on leur a donné des moyens, on les a considérés, et même ce soir, on va les autoriser à changer de tribune pour animer encore plus.
Alors, je ne suis pas sûr que ça arrivera ce soir, je ne pense pas. Mais... Non, mais après, c'est vrai
entre
que,
le virage
en tout cas, cette saison, cette saison, elle s'entend beaucoup plus l'ambiance. Et il y a peut-être un peu plus de répondants aussi autour du stade. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que Auteuil. C'est-à-dire que là, ça commence à se rééquilibrer un petit peu en plus. Donc franchement, ce soir, il va y avoir une très très grande ambiance, c'est sûr et certain.
Déjà
sur les derniers matchs, ça avait déjà commencé sur d'autres matchs, mais même sur les matchs, ils avaient fait comme une répétition contre Clermont, contre des matchs qui n'avaient pas forcément besoin de... Ils avaient déjà commencé à monter un peu en termes d'ambiance, et vraiment...
Ils s'entraînaient.
Et le Parc des Princes, quand il y a une résonance exceptionnelle dans ce stade.
Ovale,
moi,
hein.
Je sais que sur le terrain, je peux vous dire que vous... Non, mais c'est vrai, vraiment, en ambiance Ligue des Champions, ça n'a rien à voir avec le championnat ou avec d'autres choses. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Je vous vois sourire perfidement.
Mais non, mais parce que le PSG, le Parc des Princes a eu le défaut des stades ou des clubs qui se sont un peu embourgeoisés, un peu comme Manchester United, comme Arsenal, où il y avait très peu d'ambiance, où il y a très peu d'ambiance. Mais par contre, dans les grands matchs, ça se réveille.
Même le Real, hein.
Dans les grands matchs, tout le monde est comme dans un cop, en fait, parce qu'on attend ces grands matchs.
Ouais, ouais.
Mm-hmm. Ouais, donc cet appel au peuple rouge et bleu risque bien d'être entendu. Un immense tifo est en préparation, dit-on.
Ils bossent bien en général.
Ils sont pas loin d'être les meilleurs d'Europe. Ah ouais.
Mais comme contre le Barça, d'ailleurs, le match aller, ils avaient fait, ça avait duré assez longtemps, un petit peu à l'image de la Garde des Étoiles face à leur grand ennemi, le Barça, c'était plutôt beau à voir et ça avait mis dans la danse. Bon, ça n'avait pas aidé à gagner ce match. Ils avaient perdu 3-2, mais en tout cas, voilà, il se passe quelque chose avec ces ultras. Ouais.
Des indiscrétions disent qu'il y avait entre 50 et 200 supporters. Alors, c'est énorme la différence, mais entre, allez, on va dire, une grosse centaine chaque soir de 19h jusqu'à 5h du matin, parce qu'ils travaillent à ces tifos en ce moment.
Bah, en tout cas, ça fait du monde pour travailler. Ouais.
Ouais.
Et bénévolement.
Et donc,
ça, c'est l'amour du PSG.
C'est quand même... du temps que tu n'es pas obligé de mettre dans ce travail-là, et tu le mets par passion, évidemment, mais n'empêche qu'il est mis quand même volontairement.
On a même vu le président de ce club, Nasser Al-Khelaifi, qui n'a pas forcément une culture football, en tout cas jusqu'à 2011, on peut dire qu'il ne l'avait pas, qui s'est dit impressionné par Dortmund. Il a même dit j'ai vu là-bas que les supporters peuvent changer un match. Chez nous, les supporters sont très importants. Si je pouvais enlever tous les sièges du parc pour mettre tout le monde debout, je le ferais, même le mien. Donc, il est prêt à chanter, à danser.
On peut le croire, mais non.
C'est quand même lui qui a augmenté le prix des places au Parc des Princes et qui a un peu évacué du coup la classe populaire du Parc des Princes.
Les rumeurs sur le prix des billets de demi-finale, c'est arrivé à être hallucinant.
C'est à la revente aussi.
Le PSG a un site de revente, c'est ça qui est bizarre.
Les plus chers d'Europe faut le dire aussi.
On se souvient quand même, Eric, on en a parlé ce matin avec Cédric, il y avait eu quand même aussi, comme ça on battait le rappel, moi je me souviens de deux matchs retour, alors c'était pas en demi-finale, c'était contre le Real Madrid, on appelait
2018,
tout le monde à venir à faire du bruit dedans, autour, et puis aussi contre Manchester United, et ça n'avait pas franchement servi à aider les joueurs.
Ouais, non, après c'était une autre époque avec des joueurs...
Oui, mais ça veut dire qu'évidemment ça ne fait pas tout l'ambiance.
Alors, ça fait pas tout, mais quand vous avez une équipe qui joue ensemble et qui se bat ensemble, ça peut changer beaucoup de choses. Alors là, c'était pas le cas à une certaine époque où il y avait beaucoup plus d'individualité que d'équipe.
Mais il y avait plus de stars, peut-être.
Et il y avait plus de stars. Alors, il y avait plus de talent aussi. Faut pas oublier ça. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, les valeurs collectives, elles sont plus importantes. Et le travail collectif est aussi plus important. Donc, ça peut transcender cette équipe ensemble.
David, est-ce que l'image d'un grand club européen, ça passe aussi par ça? par une ambiance, un stade identifié, avec quelque chose de chaud. On parle du mur jaune, on parle de cette aréna aussi du Bayern, on parle du public du Camp Nou.
Anfield,
évidemment, quand ils chantent le We'll Never Walk Alone. Il y a des stades comme ça où on identifie stade, public, ambiance.
Oui, ça fait partie du paquet. Si on considère que Monaco n'est pas un grand d'Europe actuellement, parce qu'il a été parfois très très fort. Non, mais Monaco a fait des finales, des demi-finales, mais c'est un public de 500 personnes. Donc
Monaco, un vrai ADN européen, le coup, sans avoir un grand stade.
Mais je l'écarte parce que oui, c'est ça.
Ni un grand stade.
Non, mais la réponse...
là, physiquement, la ville est tellement... c'est pas de leur faute.
Mais même, enfin bon... Mais ce qui est vrai à Nice, c'est que les clubs, le Real, le Barça, le Bayern, la Juve... Les clubs anglais, il y a quand même une atmosphère un peu différente en fonction des chants.
Ça grandit la légende quand même.
Oui, parce qu'il y a une culture, de ce qui va se passer dans le stade. On parlait du tifo qui est un aspect. On peut parler des chants qui est un autre aspect. Il y a des joueurs qui, comme Eric Cantona l'avait fait à une époque, qui provoquent quelque chose de spécial. Non, mais c'est un exemple qui me revient comme ça, mais il y en a plein. À Cologne avec Anthony Modeste. Enfin, il y a plein d'exemples de joueurs qui ont provoqué aussi des choses particulières. Donc oui, si vous écoutez les supporters, ils vont vous décrire une ambiance différente à l'Allianz Arena, à Bernabeu, à Dortmund, à Berlin, à Schalke, au Paris Saint-Germain, parce que je suis entièrement d'accord avec Eric, je ne l'ai pas vécu sur le terrain, moi c'était dans les tribunes, mais
nous, on observe seulement.
Cette résonance, oui, mais c'est cet écho, cette résonance qui... Alors après, juste pour relativiser peut-être l'impact des supporters, une équipe comme Dortmund, qui est en demi-finale de Ligue des Champions cette année, est beaucoup plus performante à l'extérieur cette année qu'à domicile. Donc, c'est quand même très paradoxal. Vous avez 75 000 personnes derrière vous, et puis malgré tout, vous avez plus de difficultés.
Faites le gros coup. Bon,
là, ça n'a pas vraiment été quand même dans les phases finales. Ils ont quand même renversé l'Atlético chez eux, ils ont battu Paris chez eux, enfin, en attendant le retour. Donc, voilà,
il y a eu Newcastle, victoire à Newcastle aussi. Bon, alors Newcastle est en construction.
Mais l'impact, il est indéniable. En fait, quand les joueurs en parlent, moi je me souviens de joueurs d'Arsenal qu'il avait évoqué contre un match contre le Barça, avec l'ambiance qui avait été hystérique. Quand vous prenez Anfield, la remontada face au Barça, avec Klopp qui demande plusieurs jours avant d'avoir une vraie ambiance, etc. Guardiola qui réclame la même chose à City. Quand on voit l'Olympique de Marseille cette saison, avec son Vélodrome et une équipe très moyenne qui est capable de renverser les montagnes, c'est un impact énorme. C'est un impact énorme.
Le PSG en tout cas vivra ce soir une demi-finale, et surtout ses supporters, le frisson sur leur peau véritablement de cette demi-finale. Ça fait 29 ans en fait qu'il n'y en a pas eu une telle au Parc des Princes. Alors pourquoi, même si le PSG a disputé des demi-finales, c'est pour ça que je parlais des supporters. Ouais. En 2020, c'était le tournoi, c'était en un seul match.
À Lisbonne,
À Lisbonne, contre Leipzig. Et ça, c'était fait sur un seul match. Le PSG avait gagné alors 3-0. Et puis ensuite, c'était contre Manchester City, mais on vivait encore dans les méandres du Covid et ça avait été à huis clos. Donc c'était difficile. Et le match contre Dortmund, qui lui, on se souvient d'une chose, c'était aussi dans cette ambiance. Mais là, les supporters étaient allés quand même autour du stade.
Ah, et d'ailleurs, ils avaient fait un sacré truc. Les joueurs s'en souviennent encore. Il y a eu un sacré cortège avec la qualification. Il y avait une unité cas autour entre l'équipe et les supporters.
Mais ils avaient tous attrapé le Covid. Je me souviens.
Même Luis Hernandez qui a chopé le Covid en traînant là-bas.
Alors, une seule solution, en tout cas ce soir, pour se qualifier, alors dans les 90 minutes, s'imposer par au moins 2 buts de plus que le Borussia, puisqu'ils ont 1 but d'avance. Et d'ailleurs, l'entraîneur parisien semble ne pas savoir dire autre chose, du moins à la presse. Luis Enrique, à votre micro, Cédric.
Yo creo que es una mentalidad...
Moi, je pense que c'est l'approche parfaite pour aborder ce genre de moment, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle d'ailleurs. Il faut se préparer à des scénarios où ça se passe mal pour être prêt à s'adapter. À l'entraînement, on essaye de mettre les joueurs dans des situations d'injustice. Si le ballon sort, par exemple, il faut qu'il continue. Même chose s'il y a une faute. Et je sais une chose, c'est que même si ça ne se passe pas comme prévu, mon équipe luttera jusqu'au bout.
Quand on entend « ça se passe mal », c'est vrai que le PSG parfois encaisse un but d'entrée et ça l'oblige à réagir.
Bah, c'est vrai que face au Barça, ils n'avaient pas lu ce match aller, ils ont pris un but très très rapide. Et voilà, ils ont été capables, en tout cas, de. Alors après, avec un fait de jeu, évidemment, mais en tout cas, ils ont été capables de ne pas perdre le fil un peu de ce qu'ils voulaient faire et de leur idée de jeu. Je pense que c'est un peu ça ce que Luis Enrique essaye de transmettre à ses joueurs. Voilà, il y a une. Alors après, est-ce que c'est une méthode couée ou pas? En tout cas, il dégage cette sérénité, et puis surtout, il enlève cette pression qui a souvent accompagné les joueurs du PSG dans les gros matchs ces dernières saisons. Là, on sent qu'il y a un petit quelque chose de différent. Et bah voilà, ça fait la différence jusqu'à maintenant cette saison en Ligue des Champions.
Eric, ça sera pas grave si le PSG est éliminé ce soir ?
Bah ça fait tâche parce que
qu'il leur dit pour les libérer, Luis Enrique.
Ouais, il enlève la pression c'est quelqu'un d'intelligent et de malin dans la gestion de cette pression. Mais après. Évidemment que tout le monde s'attend à ce que le Paris Saint-Germain passe ce soir, parce que normalement le Paris Saint-Germain doit être capable de battre ce Dortmund, surtout quand vous faites quand vous êtes capable de battre Barcelone alors que vous pensiez que ça serait facile et que c'était pas facile. Donc après ce que vous avez fait contre Barcelone, vous êtes attendu forcément au tournant contre Dortmund, c'est sûr.
C'est vrai que le scénario du match retour était aussi un peu particulier.
Les qualités de Dortmund, parce que Dortmund est une bonne équipe.
Hein. Justement, Dortmund avait imposé, tout le monde l'a noté, David, au match aller, un défi physique, c'est-à-dire plus d'intensité, courir plus. On imagine que ce soir, ils vont utiliser la même recette.
Exactement. C'est justement l'un des ingrédients de la confiance actuelle, parce qu'on peut vraiment parler de confiance. J'ai même été presque surpris qu'on soit à ce niveau de confiance-là. Et c'est pas, je pense, de la pure communication. Était là-dedans. Donc, ils veulent reproduire exactement ce qui a été fait à l'aller, avec les mêmes joueurs, en plus, ou quasiment. On peut avoir peut-être Daniel Malen pour donner encore plus de vitesse sur les contre-attaques, mais sinon, on va avoir exactement les mêmes qu'au match aller.
À des limites, sans le show, c'est pas assez rapide.
Non, oui, c'est ça. Alors, effectivement, ils sont trois pour deux places. Voilà. Pour les si. Ben, si, non, mais effectivement.
Mais ça a bien marché au match aller, en plus.
Ça doit être la discussion.
Mais côtés,
c'est marginal, parce qu'effectivement, sur les ingrédients qui ont été mis, c'est-à-dire. Une bonne organisation, de la rigueur, un jeu collectif. Non, mais c'est.
Non, mais c'est
d'autant plus étonnant, Annie, que. Enfin, moi, j'ai du mal à. Il y a un point commun entre le Bayern et Dortmund cette saison, c'est qu'en championnat, ça ressemble à rien dans les deux cas. Dortmund est cinquième et il est à sa place en championnat. Ça a été chaotique, il y a eu des matchs nuls piteux, il y a eu des joueurs qui n'étaient pas à la hauteur, qui semblaient presque pas concernés. Et en Ligue des Champions, ça a été sérieux, ça a été bon tout le temps. Tout le temps, depuis le début, match de poule, on est premier du classement, on arrive à faire jeu égal, voire mieux, contre le PSG, au moins sur un match, celui en Allemagne. Mmh. Et puis derrière, la confiance s'accumule. Et donc, on veut garder c'est exactement les mêmes ingrédients. Ça avait été analysé déjà pendant le match par le commentateur allemand, qui avait bien vu que Dortmund, pour résister au PSG, il avait besoin d'un peu de chance, d'une belle organisation et des joueurs qui sont concernés par ce niveau-là, c'est-à-dire une demi-finale de Ligue des Champions. On peut revenir en finale pour la première fois depuis
2013.
11 ans.
2013. Voilà.
Mais moi, je trouve qu'elle est un peu difficile à analyser, cette équipe de Dortmund. C'est un peu. On ne sait pas vraiment en fait, de quoi elle est capable. Elle est capable d'emballer ses matchs, mais il y a une forme de chaos. Enfin, je sais pas, au match aller, il y avait quand même ce côté un peu comme un combat de boxe. Il y avait une attaque du côté du PSG, une attaque du côté de Dortmund. Alors, ils ont marqué un but avec, en tout cas, très beau but, très bien construit, efficacité totale. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez vulnérables. S'il y avait un peu plus d'efficacité côté parisien, le score aurait pu être différent.
Ça, le constat que tu fais, il est bon. Et c'est, on pourrait le dire pour toutes les équipes de Ligue des Champions cette saison.
Aussi,
parce qu'on a eu la demi-finale Bayern-Real, c'était pareil. Les deux équipes pouvaient marquer, les deux équipes étaient vulnérables. On a eu exactement la même chose avec City et Real Madrid. Ouais. C'est l'édition de cette saison Ligue des Champions. Le niveau n'est pas extraordinaire, ce qui fait que chacun a des faiblesses et que les faiblesses, on les voit autant que les qualités. Mais moi, je voulais juste revenir sur Luis Enrique, la gestion des émotions, parce que pour moi, c'est ça, en fait, sa communication. Et c'est ce que fait Guardiola depuis qu'il est arrivé à City, où il insiste, gérer les émotions, savoir contrôler l'émotion. Lui, il veut plutôt la contrôler, un peu comme Luis Enrique, qui va porter de la sérénité. Jürgen Klopp, il utilise plutôt l'émotion pour la décupler, pour amener de l'émotion dans le jeu de Liverpool.
Ce que fait Terzic aussi.
Pour piquer un peu dans l'orgueil.
C'est la nouveauté au PSG avec Luis Enrique, c'est que la gestion des émotions, même quand tu concèdes un but, il panique pas, en fait. Il panique jamais, le PSG, cette saison.
C'est vrai.
Et je trouve que c'est une nouvelle force.
Ça a changé, ça. Hein.
Et c'est ce qui change au PSG.
Bah justement, on va l'écouter, Erdin Terzic, l'entraîneur, parce qu'on a la sensation d'une méthode couée de la part de Luis Enrique, mais aussi de la part d'Edin Terzic, finalement, être surpris. Vous dites qu'il semble sur deux, mais il semble aussi surpris que les Parisiens apparaissent aussi sur deux.
Je ne pense pas avoir vu un PSG serein la semaine dernière à Dortmund. Bien sûr, ils ont une grande confiance en eux et ils ont le droit d'y croire. C'était également notre cas après avoir perdu de justesse notre premier match face à l'Atlético de Madrid. Nous étions aussi déterminés pour renverser la vapeur à domicile. C'est leur droit, mais c'est vrai que je les trouve vraiment sur deux avant d'aborder cette rencontre. Je sais qu'ils ont d'incroyables qualités et qu'ils méritent d'être en demi. Mais ce qui est génial avec ce retour, c'est que nous aussi, et nous voulons tout comme eux, nous qualifier pour la finale.
Est-ce qu'ils paraissent trop sur deux, Eric, les Parisiens?
Bon,
avec ce mantra, on va gagner, c'est la seule chose que je sais dire. Il l'avait fait au match aller et ça a fonctionné. Enfin, au match, pardon, à Barcelone et ça a fonctionné. Mais est-ce que c'est aussi un pare-feu, un paravent, je sais pas comment dire.
Oui. C'est une façade d'Enrique pour essayer de transcender un peu ses joueurs, mais il y a aussi des qualités pour mettre les actes derrière les paroles. C'est pour ça qu'aussi, je pense qu'il a quand même une certaine confiance. Moi, je veux juste revenir sur Dortmund, parce que moi, ce que j'ai vu de Dortmund contre le Paris Saint-Germain, c'était beaucoup moins fort que le Dortmund contre l'Atlético. Donc, en fait, j'ai trouvé... Alors, ces deux équipes ont un peu les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre défensif et des qualités offensives qui sont quand même très intéressantes. Donc, même si, comme je l'avais dit à l'aller, et sauf que Paris Saint-Germain n'a pas répondu techniquement comme ils auraient dû répondre, il y a une supériorité du côté offensif parisien. Mais sauf que si tu n'es pas capable d'être efficace sur tes actions, et bah tu te retrouves à 1-0 contre Dortmund qui a été meilleur que toi dans l'efficacité.
Mais Cédric, on connaît la fragilité mentale du Paris Saint-Germain, où on la connaissait. Est-ce qu'il y a eu une amélioration dans ce sens-là? On a l'impression que Luis Enrique travaille aussi sur ça.
Mais je pense que Luis Enrique, mais même le club en général, on parlait de Nasser Al-Khelaifi tout à l'heure, au début de la saison, il a dit « Ah non, mais cette année, nous, on ne vise pas la Ligue des Champions ». Donc il y a un côté un peu... c'est sûr que
il n'y a plus
de Neymar, il n'y a plus Messi, donc forcément vous vous enlevez de la pression. Et enfin, ce club quand même avait une capacité à se mettre une montagne sur les épaules, sur je ne sais pas si c'est la bonne expression d'ailleurs, mais en tout cas beaucoup trop de pression par rapport à la remontada, par rapport à Manchester United. Il y a eu des désillusions totales et là on sent que il y a un peu plus de sérénité. Et quand on écoute les supporters, certes il y a de la confiance, mais il y a aussi quelque chose de bon, bah si on est éliminé, finalement cette demi-finale c'est un peu du bonus. On les voyait pas du tout en demi-finale les Parisiens en début de saison. Donc c'est lié à ce qu'on disait avec Bruno sur le côté imprévisible de cette édition de la Ligue des Champions, mais en tout cas ça aide forcément à préparer une rencontre de ce type.
Ça se travaille en tout cas le côté mental, Bruno.
Ça se travaille, ça s'apprend, et je trouve, pour moi, ça passe par la personnalité des entraîneurs. Les entraîneurs qui ont déjà gagné, je trouve qu'ils apportent ça. Après, moi, la comparaison, j'ai fait depuis très longtemps. Le PSG, depuis ce début de campagne, ça ressemble quand même au Chelsea 2012, qui était le plus faible Chelsea sous Abramovich des 9 dernières années, et qui avec de l'humilité, avec un jeu un peu plus défensif, a été au bout un peu plus collectif. Mm-hmm. Et ce PSG-là est plus collectif, plus équilibré. Il dépend beaucoup moins d'Mbappé.
Après, c'était une grosse équipe de grognards à l'époque.
C'était les vieux briscards. C'était Drogba, Lampard, Terry, commençaient à être au-dessus des 30 ans et à fléchir un tout petit peu.
Cédric, vous en parliez quand on a préparé l'émission, ce qui est étonnant aussi, puisque vous dites on ne les attendait pas, et tout le monde confirme, en demi-finale, demi-finaliste de Ligue des Champions dès cette saison avec Luis Enrique. C'est quand même une équipe qui a enregistré 4 défaites sur ce parcours depuis la phase de poule, évidemment.
Ouais,
vous trouviez que c'était beaucoup quand même?
Ah oui, je trouve que c'est beaucoup
pour un prétendant à la finale.
Pour arriver en finale, mais après, c'est encore une fois le signe qu'il n'y a pas. Que si vous avez un bon tirage et que les planètes sont alignées, ben, en fait, vous pouvez vous hisser potentiellement jusqu'en finale. Mais c'est vrai que. Ils sont quand même passés par un petit trou de souris dans la phase de poule. Ils ont réussi à passer après en huitième de finale et rencontrer un adversaire qui était sans doute le plus abordable en huitième de finale à Real Sociedad. Voilà, après, moi je trouve qu'effectivement, perdre 4 fois, ça montre que Paris n'a pas forcément de marge, et notamment contre une équipe comme Dortmund qui est... je trouve un petit peu de son calibre. Je pense que si Paris s'était retrouvé de l'autre côté avec le Real, avec le Bayern, avec Arsenal, avec City, c'était
quand même... Il serait peut-être pas un demi-finaliste.
Disons que ça aurait été plus compliqué, je pense.
C'est vrai que ça choque par rapport à Manchester City qui a gagné l'édition l'année dernière, qui était invaincu toute la compétition. Mais en 2022, le Real Madrid, ils ont 4 défaites. Ils ont 4 défaites. Ils jouent aussi sur un fil. Ouais. Et à chaque fois, ça basculait au match du tour.
Irrationnel.
Ouais, il y a un côté irrationnel qui basculait. Ouais. Et... Donc finalement, il n'y a pas d'exemple à suivre. S'ils peuvent aller au bout avec, avec 4 défaites, pourquoi pas, on sera tous contents.
David,
David.
Tout à fait.
Moi, j'ai une petite, divergence avec Rabé parce que
c'est impossible, monsieur.
Aujourd'hui. Est-ce que ça n'est pas le Borussia qui a quand même beaucoup dérangé la machine parisienne, bien sûr.
Non, j'enlève pas cette évidemment.
Et là, il y a quand même 2-3 éléments à Nice. Il y a la défense centrale, Hummels, Schlotterbeck. Les deux ne sont pas sûrs d'aller à l'Euro. Les deux sont en train de vouloir absolument prouver aux sélectionneurs qu'ils ont leur place. Donc, ils sont peut-être en hyper concentration. C'est un bon point pour eux, Sabitzer. Et l'homme clé au milieu de terrain, c'est le plus en forme de tous.
Pas seulement,
j'aime beaucoup.
Julian Brandt n'est pas non plus assuré d'être. Il y a un embouteillage dans l'équipe nationale, donc lui aussi court énormément, fait énormément d'efforts, équilibre le milieu de terrain. Il y a pas mal de planètes qui s'alignent.
Maintenant, il y aura 26 places, alors ils seront
Non, il n'y en aura que 23 pour l'Allemagne.
Ah bon?
Pourquoi? Oui, ils ont prévu d'en emmener 23.
Non, mais Didier Deschamps avait dit pareil, puis après il a dit on verra.
24, quoi.
Füllkrug qui n'a pas marqué depuis une bonne dizaine de matchs marque le but important à l'aller, donc ça lui donne aussi une confiance.
Adeyemi, intenable.
Adeyemi qui avait raté son match en championnat juste avant et qui a été très très bon contre le Paris Saint-Germain.
J'ai repris mes archives de la saison. Adeyemi est très mauvais cette saison. Mais là, aujourd'hui, il a retrouvé une espèce de magie, cette magie qu'il avait quand il est arrivé en équipe nationale. Sancho, un facteur X aussi.
Sancho, il revient de nulle part. Quoi. Ouais, c'est pareil.
Si, il revient de Manchester.
Voilà, il veut rester maintenant. Depuis 2 ans. Quoi.
Il veut rester. Le Borussia va devoir faire des efforts.
Mais c'est vrai que la performance de Dortmund, moi, je trouve qu'on l'a un petit peu rabaissé en disant le PSG a raté son match. Et Frédéric, Dortmund a fait son match. Et
Dortmund, réussi son match.
On disait, Rabé, tu disais, si le PSG avait été un peu plus efficace, mais si Dortmund a été un peu plus efficace, il y a 3 ou 4 buts.
Mais d'ailleurs, Bruno,
il y a un pénalty qui n'est pas sifflé, il y a Foutrou qui la met au-dessus.
Quel pénalty qui n'est pas sifflé?
La poussette dans le dos, il y a pénalty.
Il ne le touche pas.
Bruno, en tout cas,
David. C'est vrai?
Pour être objectif, il y a eu 2 ou 3 occasions qui pouvaient.
Ah oui, il y a 5 de Foutrou. De l'autre côté, Ousmane Dembélé qui tire au-dessus.
En tout cas, les confrontations entre le PSG et Dortmund, ça donne une victoire ici au Parc au mois d'octobre, si je ne me trompe pas.
En décembre,
ça donne un match nul. Et le troisième match, c'est une victoire de Dortmund. Donc, avec le temps, on a l'impression qu'ils arrivent à.
Après, c'était il y a longtemps. On a l'impression que c'est vraiment 2 équipes complètement différentes par rapport au mois de septembre.
Mais ça,
c'est
sûr.
Les 2 équipes ont évolué. Incroyable.
En tout cas, selon les pourcentages, nos amis d'Opta, 39% de chances de se qualifier, oui, quand on a perdu à l'extérieur. Et je me souviens qu'avant d'aller à Barcelone, pour le PSG, c'était 32% quand ils sont partis à l'autre jour jouer le quart retour. Ça veut dire qu'ils ont fait augmenter le pourcentage de réussite. On est passé de 32 à 39. Maintenant, on verra. En tout cas, il y a quelqu'un qui joue gros ce soir, évidemment. Enfin, c'est une soirée spéciale, c'est pas qu'il joue gros. C'est Kylian Mbappé. Parce qu'il jouera pour la dernière fois, sans doute, puisqu'il a annoncé qu'il quittait le club, avec les couleurs de Paris, un match de Ligue des Champions au Parc, devant son public. Et vous allez l'entendre, il répondait à nos confrères du Parisien, mais il est très optimiste.
La pression, on est conscient, mais le groupe est extrêmement serein. On est confiant et on est sûr qu'on va remonter ce score-là et qu'on va se qualifier pour la finale.
Lui aussi, il est confiant.
Ce qui est drôle là, c'est le discours qui a changé, c'est vrai. Ce côté positif, alors qu'avant on était toujours un peu trouillard, un peu. Aujourd'hui, ils affichent clairement le. Un peu trop des fois, je trouve, mais clairement quand même.
Mais le match retour à domicile.
Mais il est obligé de dire ça.
Non, mais bien sûr qu'il est obligé.
Il a toujours
été. On n'a jamais eu forcément sur toutes les équipes françaises un discours où tu dis on va gagner ce match,
demi-finale,
on va se qualifier.
Moi,
j'ai pas beaucoup entendu sur les équipes françaises.
Est-ce qu'il a rendez-vous avec le public du Parc ce soir, particulièrement lui?
Il a parce que c'est un match important pour lui quand même, mine de rien. On l'attend au tournant. Il a pas fait une grande saison en Ligue des Champions. Même s'il a eu des moments forts, mais beaucoup moins que ce qu'il a pu faire sur d'autres campagnes de Ligue des Champions.
8 buts quand même. 8 buts.
Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les performances, dans la présence,
dans
sa présence dans les matchs, il est beaucoup moins important, beaucoup moins décisif dans ses dribbles, dans ses voilà. Donc c'est là où.
Moi, j'ai l'impression, alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas pour le PSG, mais que le PSG est moins dépendant des Mbappé pour se qualifier. Pour moi, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il peut apporter le truc en plus, mais s'il ne brille pas, le PSG peut briller. Et grâce à Dembélé, grâce à Vitinha, grâce à Barcola, grâce au banc de touche aussi, qui peut amener de la qualité, parce que ce soir, si vous pouvez faire entrer Kolo Muani, Gonzalo Ramos...
Asensio.
Ramos plutôt.
mais il faut qu'il rentre.
Et pour moi, ils peuvent apporter quelque chose. Donc je trouve qu'il est moins dépendant, mais il joue gros.
La peur de Kylian Mbappé en Allemagne, dans la presse, dans les commentaires, ou pas spécialement, David?
Cédric a été témoin en conférence de presse. Je pense que la question a évidemment été posée à Hummels, qui, du haut de ses 35 ans, a dit, mais de toute façon, enfin, c'est la formule habituelle. De toute façon, oui. Contre Kylian Mbappé, vous êtes obligé d'être une équipe. Donc, alors,
on peut pas dire autre chose.
Non, mais il y a contre Dembélé aussi, en fait.
Il l'a croisé 2-3 fois, donc il sait.
Plus, oui, oui.
Voilà, alors après, la vitesse.
Ça sera la quatrième.
À Dortmund, il y a une complémentarité quand même en défense. Vous avez ce Norvégien, Rierson, qui est extrêmement accrocheur, qui vit pour la défense d'un côté, et de l'autre côté, un Madsen qui peut mettre de la vitesse, de l'intensité aussi vers l'avant. Donc cet équilibre, je pense, leur apporte aussi une forme de confiance, avec une défense centrale qui s'est trouvée aussi, qui est très complémentaire. Je n'ai pas de réponse, moi, technique à vous donner, mais en tout cas, la réponse de Hummels, c'était classique, c'est-à-dire il faut défendre à plusieurs.
De toute façon, ils vont défendre à peu près bas, comme au match aller, parce que...
Ah oui, d'autant plus qu'ils ont un but d'avance.
Forcément, quand vous laissez un peu d'espace avec des joueurs comme Barcola, comme Mbappé, comme Dembélé, ça peut aller très vite. Donc forcément, je pense qu'ils vont un peu...
Ils ont bien géré, d'ailleurs. Barcola, ils ont bien géré. À chaque fois, ils étaient à plusieurs pour défendre. Et c'est comme ça qu'ils ont...
Dembélé, ils ont bien géré. On a eu du mal. Monsieur, dernière question. Un pronostic. Allez Bruno.
Je suis pas devin. Non, je pense que le PSG va passer. J'espère pour ce club-là. Il en a
Eric,
besoin.
Vous pensez pas?
Moi, qu'ils vont passer. Si, je pense qu'ils vont passer. Après, je suis optimiste, mais
Mais
bien sûr, je sais que ça va être dur. Mais j'espère bien qu'ils vont passer, évidemment.
Les Allemands sont unanimes, donc je peux vous restituer leur point de vue, c'est qu'il faudra marquer un but pour Dortmund, donc on peut imaginer peut-être un 2-1 pour le Paris Saint-Germain si c'est un match un peu équilibré, un peu intense, donc voilà. Ouais, c'est comme ça qu'ils le voient en Allemagne.
C'est Dortmund qui passerait.
Le défi, ça va être prolongation, tir au but peut-être. Mais ça veut dire aussi qu'il faudra marquer un but. Or, à l'aller, Füllkrug, moi, m'a surpris cette réussite-là.
Exceptionnel.
Pied gauche, pied droit.
Non, il marque un superbe but. Après, il y a une vraie faute de concentration qui vient aussi certainement de Lucas Hernandez qui a pris une mandale.
Oui. Bah, c'est aussi Marquinhos qui couvre sur le but.
Ouais, là, au départ, mais Marquinhos, il est plus sur une autre action. Mais le vrai départ, c'est Hernandez.
Hernandez est un qui ne sera pas là ce soir et pour de longs mois, malheureusement. Heureusement, gravement blessé et à l'hôpital actuellement dans une chambre en Autriche.
Ouais,
bon Cédric, on vous retrouve d'ici peu d'ailleurs, plaisir. En direct.
Merci
sur l'antenne. Ça sera avec Sofiane Amazian et Naïm Moniol. Coup d'envoi sur RFI 19h58, c'est ça hein, 18h58 temps universel, 20h58 de Paris. Et puis on vous retrouve dans la deuxième édition en direct de Radio Foot International. Bon match.
Merci, à tout à l'heure.
Bon match à tous. Nous, on continue parce qu'il y a un suspense. Demain, il y a un autre match. C'est la version chorale de l'hymne madrilène en 2013, lorsque les chanteurs d'un jour étaient les héros d'un soir en remportant enfin cette décima. Il y avait encore Gareth Bale, il y avait encore Iker Casillas, il y avait encore Benzema, et Cristiano Ronaldo, bien sûr, cette 10e Coupe d'Europe qui se refusait au Real Madrid depuis si longtemps et qu'ils avaient remporté avec Carlo Ancelotti. Hey. Et cette fois à la Casablanca, on rêve de décima quinta, parce que depuis, ils en ont gagné quatre autres.
Juste.
Ça serait donc la 15e à leur portée. Demain soir, les Merengues joueront à Bernabeu face au Bayern Munich après un épique 2-2 au match aller. La fête, en tout cas, est du 36e titre remporté au cours du week-end par les Espagnols. Ils ont remporté la Liga. La fête a été reportée, c'est ce qu'assure Carlo Ancelotti.
Nous étions très heureux du titre de champion remporté samedi, bien sûr, mais c'était une joie contrôlée, car nous devions préparer la rencontre face au Bayern. Nous l'avons fait, maintenant nous avons le temps. La Liga est dans la poche et jeudi, on va réfléchir à la manière dont on va fêter ce succès, mais nous ferons la fête, je peux vous l'assurer.
Et d'ailleurs, ils veulent faire la fête dès jeudi. Alors jeudi, seront-ils qualifiés en finale ou pas? Le Real Madrid, d'abord Bruno, c'est une équipe, on le sait, en plus que... Alors, on disait que le BVB se révèle dans cette compétition, mais eux, ils ne se révèlent pas. C'est leur nord de chaque saison.
Oui, on a même l'impression qu'ils s'en nourrissent, en fait. On a l'impression que, un peu comme les monstres, quand ils avalent un peu au fur et à mesure de la compétition, ils grandissent, ils sont de plus en plus impressionnants. Moi, je ne les trouve pas impressionnants, mais je les trouve tellement... chirurgicaux. Quand
ils sont impressionnants peut-être pour ça, justement.
Ils ont gagné qu'un seul de leurs 5 matchs de match à élimination directe cette saison. Un seul. Le reste, c'est des matchs nuls. Et ils ont souvent souffert. Contre Leipzig, ils ont énormément souffert.
Deux fois.
Avec des décisions arbitrales qui ont été un peu dans le sens madrilène. Contre City, ils ont été bousculés, ballottés, mais ils n'ont jamais rompu. Ils ont cette force-là.
Ah oui.
Sans être une... C'est pas le plus
grand
Real.
C'était impressionnant.
C'est pas le plus grand Real des 10 dernières années. Mais il a cette force-là intérieure qui est assez extraordinaire, sans avant-centre.
L'illustration à Nice, c'est la semaine dernière. Ouais, il y a un moment où ils prennent 2 buts consécutifs. On a la sensation qu'ils vont peut-être être
Surtout, déjà, ils marquent contre le cours du jeu.
Oui, mais c'est ça.
Comme souvent, contre le Bayern, c'est à 15 minutes où ils sont à la rue complète.
Et c'est eux qui ouvrent le score.
Et pareil, pour égaliser derrière, pour sauver les apparences. Mais c'est plus que les apparences. C'est-à-dire que là, ils sont en situation quand même pas confortable, mais
favorable.
Plutôt favorable chez eux.
Eric, vous, ce Real Madrid, parce que c'est vrai, on dit qu'ils ont l'ADN, mais c'est vraiment l'histoire du roseau de la fontaine, quoi. Ils ploient, mais ne rompent jamais. Ça leur arrive, l'année dernière, ils avaient d'ailleurs été éliminés après un 4-0, mais ils ont appris, parce que cette année, ils n'ont pas repris 4-0 du côté de Manchester City. Et effectivement, ils se nourrissent de ça. Et en même temps, ce qui est fascinant, c'est ça. On regarde en se disant, non, ça ne va pas passer, mais ça passe.
Non, mais ça passe parce qu'aussi, il y a une culture de la victoire et d'être solide comme ça ensemble. Même, tu souffres.
Ils ne paniquent jamais.
Tu souffres, mais ils savent très bien qu'à n'importe quel moment, ils vont faire la différence.
Mais on voit que Carlo Ancelotti, il ne hurle pas sur le bord du terrain.
Cette équipe lui ressemble.
Carlos Bianchi nous dit toujours, ceux qui hurlent ça sur le terrain, de toute façon, les joueurs ne les entendent pas. Il trouve que c'est
bien
du cinéma. Carlo Ancelotti, c'est je mâche mon chewing-gum, plus ou moins vite. Mais...
Après, il y a le discours qu'il a avant, il y a la confiance qu'il laisse, parce qu'il y a une certaine liberté aussi à ses joueurs. Il y a la qualité, quand tu as un Kroos qui a 75 ans et qui te fait des passes comme ça, mais c'est un régal, et qui est changé par Modric derrière, et qui te régale.
Et
tu te dis, mais c'est quoi ça en fait? Mais les mecs ne meurent jamais, et sont là, et il y a une culture, et tout ça, ça... Ils ont traversé des années comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils n'ont pas cette fragilité de se dire « on est en train de se faire bouffer » parce que... Non, il y a cette solidité naturelle. Et puis derrière, il y a la qualité technique parce que c'est ça qui fait la différence.
David, est-ce qu'on tremble à Munich face à ce score qui finalement ne les avantage pas forcément, quoi? 2-2, tout le monde est dos à dos.
David, si tu nous dis le contraire, alors là...
Mais ils ont raté le coche. Moi, je trouve qu'ils ont raté le coche à l'aller.
Ils ne tremblent pas du tout.
Les Allemands ne tremblent jamais.
Pas du tout. Non, mais alors, toute proportion gardée, il y a quand même un peu de ce qu'on décrit là aussi côté Bayern. Il y a les 36 titres au Real, il y en a 33 côté Bayern, l'histoire n'est pas exactement la même puisque la Ligue des Champions, la Bundesliga, c'est 1963, le départ. Mais il y a cette culture-là aussi, c'est-à-dire que même si ça a penché un peu pour l'adversaire au match aller, vous avez des Müller, vous avez des Kimmich, vous avez des Neuer qui vont vous dire, mais on a toutes nos chances. Alors après, on peut faire des calculs, on peut dire c'est 60-40 pour le Real, on peut dire effectivement ça peut tourner sur une action parce qu'effectivement à l'aller, Vinicius...
C'est incroyable.
Il est indescriptible. Et ça tourne sur une erreur de Minjae Kim, le penalty. Peut-être que Neuer aurait pu récupérer le ballon. Mais le Bayern sait qu'il
même
a ses chances
Neuer.
Aujourd'hui.
Oui.
Demain.
Oui, ça sera demain soir. Et justement, il y a un des camarades de Vinicius, parce que c'est quand même l'homme du doublé, rappelons-le. Il marque un pénalty, il est bien concentré jusqu'à la fin du match, parce que c'est évidemment très important. C'est l'attaquant brésilien et donc double buteur, le fameux Vinicius Junior dont parle Dani Carvajal.
Je pense que Vinicius s'est amélioré dans tous les domaines, dans la finition, physiquement, dans sa maturité, dans son jeu, en sachant que quand il prend l'espace, il doit demander le ballon. Il est très fort, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde et il le montre chaque jour. Nous savons que Vinicius travaille beaucoup. Il a des séances particulières de physio et de coaching. Et tout cela fait de lui l'un des meilleurs au monde. Et j'espère que demain, sur le terrain, il pourra nous aider à nous qualifier.
Et aussi est élégant, ah bon, Toni Kroos, bon, quel bon, qui bon ballon, quel bon ballon. Magnifique pour Vinicius. Le Real entre en scène et cela fait mal. Vinicius, Neuer. Vinicius, la force de l'habitude.
Vinicius, le plus dangereux.
Oui, alors David. En plus, bah, d'autant plus, Annie, que la défense du Bayern a quand même, elle a beaucoup changé. Tourel a mis du temps à installer une défense qui était assez improbable, puisque Eric Dyer arrive. Il est finalement à côté du Néerlandais De Ligt. C'est les deux qui fonctionnent le mieux, mais De Ligt n'était pas apte au match aller. C'est Minjae Kim qui n'a pas encore confirmé son rôle de monstre, puisque c'est comme ça qu'il était appelé à Naples depuis qu'il est arrivé au Bayern. Donc forcément, il y a aussi, ça flotte un peu. On a passé Mazraoui, le Marocain, qui est très bon avec le Bayern,
très bon
de
joueur,
droite à gauche. Mm-hmm. Et il y a des petits comme ça. Pour Tourelle, ça a été compliqué quand même cette saison. Et Vinicius, dès qu'il y a 10 cm, il va savoir en profiter, bien sûr.
Vinicius, c'est l'homme qui... On avait vu Rodrigo avant, l'autre Brésilien, faire basculer notamment bon aussi, face Manchester. À Manchester City. Ouais. Donc, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, on peut dire, Bruno.
Oui, on va pas dire que c'est des jumeaux, mais c'est vrai qu'ils se complètent bien et dans un rôle un peu à part, parce qu'il n'y a pas d'avancement de cette saison, donc ils sont tous les deux assez libres. Moi, quand même, un mot sur Vinicius, je trouve qu'il est trop souvent oublié des débats quand on parle de Ballon d'Or, quand on parle de meilleur joueur du monde. Moi, je trouve que c'est un joueur exceptionnel, qui est en progrès constant, année après année. Je regardais ses stats cette saison, il est à quoi, 21 buts, 11 passes décisives en 35 matchs. Il est exceptionnel. Il est bon dans les grands rendez-vous. Ça, c'est quand même l'ADN des grands joueurs. Et surtout, il a, même quand il ne fait pas un grand match, il est capable en deux secondes de faire basculer la rencontre. Il a une qualité extraordinaire. Maintenant, il tire les pénaltys et il est bluffant. Et franchement, c'est un super joueur. Et il n'est pas le seul parce que Bellingham était un peu discret sur le match aller, mais c'est un immense joueur. Oui. Rodrigo, Modric, quand il rentre en cours de match, il apporte aussi son expérience. Enfin, c'est un effectif extraordinaire.
Eric, vous seriez face à eux ? Attention, danger ?
Non. Ben évidemment, comme tout le monde. Non, mais bien sûr. Après, il y a aussi un collectif. C'est-à-dire qu'on parle des individualités depuis tout à l'heure.
Bah oui.
Mais il y a un collectif dans cette équipe.
Bah oui, on parlait de Toni Kroos.
Donc, il y a une mentalité. Il y a des individualités et il y a un collectif et il y a un entraîneur. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui font que ils ont plus de chances que les autres de gagner les matchs.
On verra ça demain. Demain, on reviendra évidemment sur cette demi-finale retour du côté de Madrid. Pour l'instant, on va rendre un hommage dans Radio Foot à un grand monsieur des livres qui adorait le foot.
Quand je suis sur un stade ou devant mon petit écran et quand je vois un très beau but, pensez bien que j'oublie tout. Et quand je me balade en voiture, comme ça, dans une ville, en banlieue, et que sur un terrain cabossé, je vois les rouges contre les bleus, ce sont des corpos ou des juniors, je m'arrête et avec un grand plaisir, je regarde jouer, même s'ils jouent pas très bien. Parce que c'est ça, quand on aime le football, c'est pas seulement penser à toutes les affaires qui sont derrière. Mais en tout cas, vive le football.
Il a beaucoup bercé nos vendredis soirs avec ses débats parfois vifs autour des dernières parutions littéraires, entouré d'écrivains, parfois perdus dans le halo des cigarettes, des piles de livres toujours impressionnantes sur la table dont il donnait l'impression de tout lire et d'avoir tout lu. Au début, les images d'apostrophe étaient même en noir et blanc, puis elles sont passées en couleur, un peu palichonnes les couleurs, et Bernard Pivot paraissait si à l'aise, si convaincant pour donner envie de lire, de découvrir le monde à travers les livres. Mais l'iconique animateur de l'émission Apostrophe durant 15 ans, puis d'autres émissions culturelles à la télé française, un Bernard Pivot disparu hier à l'âge de 89 ans était un fou de foot. Il en parlait, l'écrivait, le chroniquait. Un Lyonnais de naissance, mais fan de Saint-Étienne. Mais à l'époque, c'était sans doute la grande équipe. Ouais. Des Verts qu'il avait suivis jusqu'en finale à Glasgow, dans ce fameux match contre le Bayern Munich. Et cet intellectuel aimait parler de sa passion, même s'il aimait aussi intellectualiser cette passion. Écoutez cet extrait.
Je ne cache surtout pas mon amour pour le football. Moi, c'est intéressant d'avoir, d'aimer deux ou trois équipes par rapport à d'autres, parce que ça donne du piquant au match que l'on voit. C'est intéressant. Et surtout, l'extraordinaire sensualité du ballon quand il touche le filet. Alors, quand on a joué, évidemment, ça fait qu'on a la chance de marquer un but, c'est encore une sensation encore plus grande. Faites l'expérience. Un enfant de 2 ans qui vient juste de marcher, mettez un ballon devant lui. Il ne va pas se baisser pour le prendre. Il va donner un coup de pied dedans. Donc, je pense qu'on a inventé le football avant le basket ou le volley. J'ai beaucoup joué quand j'étais enfant, sans être un joueur bien doué. Mais j'étais un joueur obstiné, têtu et gagneur. J'étais dans un pensionnat, et quand on allait jouer à l'extérieur, évidemment le jeudi, eh bien, c'était l'occasion de quitter les murs du collège. Et quand on revenait avec une victoire, on donnait l'assurance à ceux qui étaient restés à l'intérieur des murs que non seulement à l'extérieur il y avait la liberté, mais à l'extérieur il y avait la victoire. On pouvait revenir avec la victoire, ce qui était formidable vis-à-vis non seulement de nos condisciples, mais aussi des professeurs.
Il en parlait bien, il en parlait autrement. Lui qui avait rêvé d'intégrer le journal L'Équipe à l'époque, quand il était sorti de son école de journalisme. C'était une émission avec Anne Sinclair. Éric, vous l'avez croisé
Non, j'ai jamais eu cette chance. Moi, j'ai toujours été admiratif de ce personnage. Et là, de toute façon, juste à écouter l'interview, c'est passionnant. Et puis, il
a un autre regard, bien entendu.
Oui, mais en plus, il a les mots pour traduire un petit peu sa passion. Donc franchement, j'ai toujours beaucoup aimé. Il a toujours dégagé, je vous disais, un charisme un peu particulier et une intelligence, mais humble. C'est pas le gars qui était là pour étaler sa science et qui était vraiment là pour écouter les autres et partager surtout.
Oui, être un transmetteur finalement, ce qui est le rôle d'un média. Bruno,
Moi, je trouve que c'était l'un des rares traits d'union en France entre l'intellectuel et le football, parce que le football en France est vu un peu beauf, un peu
populaire.
Un sport de populaire, un peu sauvage, un peu sectaire. Ce qui n'est pas le cas en Argentine, ce qui n'est pas le cas en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays, au Brésil, où il y a vraiment cette intellectualisation du football, de poésie, de romantisme.
Oui, puis tous les gens, même des élus, des députés, des présidents, osent dire « je suis un passionné, j'aime tel club ».
Et lui, il amenait ça. Et lui, il amenait cette passion-là. Et puis quand on l'écoute, de toute façon, c'est sa passion qui est là. Et il aurait aimé être footballeur, il aurait aimé être journaliste sportif. Et ça ne l'empêchait pas d'être brillant dans son domaine. Donc c'était un homme magnifique.
Moi, je suis convaincu aussi par ce rôle très pertinent. Et il a été peut-être l'un des rares quand même à l'incarner, ce rôle pertinent. Alors, c'était un des aspects, mais ce trait d'union entre un sport comme ça, universel, effectivement populaire, et quelque chose de peut-être un peu plus intellectuel. Il y avait, en France, on a quand même quelques exemples. Je pense à Antoine Blondin, puisqu'on parlait de L'Équipe. Antoine Blondin qui a mis des mots merveilleux aussi sur... Alors, le Tour de France avant tout, mais des chroniques de sport en général.
Et il aimait le cyclisme
aussi,
Bernard Pivot.
Et ça, c'est formidable parce qu'on se dit aussi souvent, pour prolonger ce que dit Bruno, on se dit aussi souvent que la littérature foot, elle est faible, elle est pas forcément merveilleuse intellectuellement, il n'y a pas forcément des grands romans. Il y a quelques personnages, au premier rang desquels Bernard Pivot, qui ont fait justement le lien entre le football et quelque chose de peut-être un peu noble à raconter.
Non, mais c'est vrai, en Amérique du Sud, on a souvent des grands chanteurs, je pense à des chanteurs populaires aussi, comme Chico Buarque, qui adore le foot, qui en parle, qui le chante. Il y en a qui l'ont écrit aussi. George Benjor, lui, chantait des chanteurs des joueurs de Flamengo. En Uruguay, il y avait un grand intellectuel, j'ai que son prénom, qui avait écrit aussi un livre, Eduardo, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, lui, il était intégré un peu, il faisait partie de la deuxième chaîne française, alors c'était Antenne 2, après ça a été France 2. Mais le service des sports travaillait avec lui, lui a fait commenter des matchs. Coupe du Monde 1986, par exemple, au Mexique, où il était allé avec Bernard Père à l'époque. Il a écrit des livres, la mémoire n'en fait qu'à sa tête. Il fournissait des livres officieusement, comme il dit, à l'équipe
c'est
de
beau,
France, à travers l'intendant d'alors qui était Henri-Émile. Il faisait passer de tout, apparemment, des polars, la science-fiction, quelques petits livres porno, disait-il. Et puis,
de l'histoire.
Voilà. Après, il dit l'écran m'a tué parce que les images, les vidéocassettes et tout ont un peu brisé la glace. Et il recevait dans son émission, il a reçu Robert Herbin, Robert Herbin à l'époque, après la grande épopée de Saint-Étienne. Raymond Gueltas, c'était après l'épopée de l'OM, l'entraîneur. Et puis Aimé Jacquet, après 98. Et là, c'était après la victoire, première victoire de Coupe du Monde de la France. Merci beaucoup, Monsieur Pivot, parce qu'il nous a appris beaucoup de choses, et notamment sur les livres. Merci à vous, messieurs,
merci
de nous avoir préparés, mis en bouche pour ce match qu'on attend. Donc, coup d'envoi d'ici 2 heures au Parc des Princes. Et on sera là en direct pour revenir sur le match tout à l'heure, après l'intégrale sur RFI. Merci à tous et à tout à l'heure.